RCF. RCF Finistère, une fois pour tous.
Sur RCF, nous poursuivons notre parcours de découverte de l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour. Nous en sommes à la 6e émission avec cette semaine Jean-Michel Moisan, qui est prêtre de notre diocèse, formateur diocésain, spécialiste des questions éthiques et aussi accompagnateur de la pastorale de la santé, aumônier d'hôpital. Avec vous, nous allons aborder, Jean-Michel, un chapitre, le chapitre 8. C'est une question qui était attendue, celle de la rupture du lien matrimonial, du remariage et de l'accueil dans l'Église. C'est la question des personnes divorcées, remariées ou en couple. Alors, le pape François allait-il permettre un accès au sacrement de l'Eucharistie et de la réconciliation aux personnes divorcées, remariées? Qu'en dire?
Ce chapitre 8, donne des considérations et des pistes pour accompagner les personnes qui soit sont dans des situations matrimoniales non célébrées en Église, sacramentellement, à qui on peut proposer le sacrement de mariage, et également, comme le texte le dit, les situations dites irrégulières. Cette question, il faut le dire, est une question qui travaille l'Église depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce que la pratique du Concile Vatican II, suite à Pie X vers les années 1900, a souhaité que les chrétiens participent davantage à l'Eucharistie. Et le cardinal Lustiger disait « La question des divorceurs mariés ne se posait pas en 1950, puisqu'on communiait très peu. » Et que le Concile Vatican II ayant mis en valeur la communion eucharistique, la question des divorcés remariés qui ne pouvaient pas y aller, donc s'est posée de manière extrêmement vive dans tous les diocèses. Les diocèses divers qui ont fait des synodes, entre autres, ont amené à Rome la question « Peut-on permettre un accès au sacrement de réconciliation et d'Eucharistie ?» Et le pape Jean-Paul II avait eu la même question en 1980, en 1979, sur les synodes de la famille. Il avait eu comme souhait des pères synodaux à l'époque, et il y a le texte qui est très clair, le souhait était le suivant, pourrait-on étudier une possibilité d'accéder au sacrement d'Eucharistie et de réconciliation, comme le permet la pratique orthodoxe. Le pape Jean-Paul II, à l'époque, en 79, a le dossier remis par les pères synodaux et il n'a pas décidé d'obtempérer, de réaliser ce souhait-là. Et il a amené dans les paragraphes 84, 83 et 84 de Familiaris Consortio à l'époque, il a amené donc la continuité de la discipline sur ce point-là. Et donc, 80, nous sommes à 35 ans après et la question travaille toujours. Et elle a travaillé jusqu'à venir à Rome, précisément. Et il faut dire que le synode sur l'Eucharistie dernier, dont je n'ai plus la date exacte, a réitéré l'interdit des personnes divorcées remariées au sacrement de pénitence et de réconciliation et de communion. Et le pape a décidé d'amener dans un grand synode sur la famille cette question-là en 2014 et 2015.
Est-ce que vous voudriez nous dire maintenant quelles sont les positions qui sont remontées, si on peut dire, du terrain ou de toute l'Église universelle à ce sujet pour les deux sessions du synode?
Les positions, en gros, étaient les suivantes. Et il faut, de manière extrêmement calme sur ce dossier, parce que c'est un dossier explosif dans l'Église, il faut amener les positions. C'était les positions suivantes, qui étaient présentes chez les cardinaux eux-mêmes, c'est-à-dire parmi les évêques et les cardinaux. Il se distinguait dans les deux positions suivantes, c'est celle-ci. L'Église a valorisé le mariage sacramentel. Et donc, comme ce que dit l'Écriture est vrai, ce que dit l'Écriture c'est ceci, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ça veut dire qu'un mariage sacramentel est uni par Dieu, Et donc cette unité, cette union, pardon, ne peut pas être dissoute. Elle est indissoluble. Ça veut dire que si on maintient cette indissolubilité, il faut la maintenir comme un message qu'on envoie au monde. C'est-à-dire comme un message qui est perceptible, comme un témoignage. Et donc, si on remet en cause par la possibilité de communion, on va dire au fond, l'Église admet comme possible un autre couple qui soit possible, voilà. Et l'Église reconnaît la possibilité d'un second couple. Ça veut dire que le message envoyé ne sera pas percutant du point de vue du témoignage, c'est-à-dire du point de vue de la présence de Dieu dans ce mariage-là. Bon, c'était la position des cardinaux comme cardinal Burke, cardinal Caffara et cardinal Müller, qui est donc une des pièces maîtresses du Vatican, puisqu'il est le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, les positions se sont exacerbées. Hein, se sont exacerbées dans cette année 2014-2015, avec un foisonnement de littérature là-dessus, aussi bien sur cette position que je viens de dire, que sur la position autre. La position autre était laquelle ? Était celle-ci. Nous avons aujourd'hui, dans nos communautés, des gens qui ont eu une rupture, soit parce que ils ont eu une souffrance énorme dans leur couple et ils ont dû partir, soit parce que le conjoint est parti avec une femme ou un homme et voilà, et la situation a fait que ils se sont séparés et donc divorcés en termes civils, et ils disent nous ne pouvons pas rester seuls. Il y a là une situation anthropologique, si vous voulez, humaine, extrêmement forte. Et lorsque une personne vient vers eux, dans une relation d'amitié d'abord, puis d'amour, et avec un désir de vie conjugale, la question se pose à eux, mais est-on vraiment en situation de péché mortel tellement grande que nous ne puissions pas communier ? Et surtout, la question et celle-ci, devra-t-on rester à vie, comme condamné à ne pas vivre pleinement de la vie de l'Église ? Je distingue être d'Église, ils le sont, tout le monde l'est, par le baptême, et vivre pleinement de la vie de l'Église. Et quand on est hors la possibilité de communier, de recevoir le sacrement de réconciliation, on est quand même soustrait à cette vie pleine. Voilà. Et il y a un certain nombre de questions qui se posent. Quelles sont les questions concrètes qui se posent sur cette réalité-là ? Il y a la question de l'accès au baptême. Quelqu'un qui est non-croyant, qui est non-baptisé et qui connaît, aime et souhaite une vie conjugale avec une personne baptisée, divorcée ou mariée, ne peut pas aujourd'hui accéder au baptême. Et donc, comment régler ça ? Va-t-on les garder dans un groupe de catéchuménat à vie, comme ça l'était au 1er siècle ? Bon, c'est une possibilité, mais aujourd'hui, personne n'est satisfait totalement de cette situation. Deuxième question qui se pose, c'est la question d'un temps de prière à l'occasion d'une célébration civile. Et Jean-Paul II avait dit dans son texte « Familiaris Consortio », avait dit « Je ne veux pas, en aucune sorte, de célébration, de temps de prière » à l'occasion d'un mariage civil. Autre question qui se pose, c'est la question des laïcs qui peuvent être admis à avoir des lettres de mission. Aujourd'hui, dans l'Église, concrètement, on n'admet pas, sauf cas particulier, des personnes qui sont en situation de divorce marié et la communion. Et puis, voilà, c'est à peu près les quatre situations. Voilà. Certains pères synodaux du synode récent, donc 2014-2015, ont dit il faut qu'on puisse réintégrer et que la situation de personnes divorcées ou mariées puisse se trouver comme à un moment donné, on dit bon, on arrête là le fait de l'exclusion et on réintègre. Moyennant quoi ? Moyennant un discernement énorme là-dessus.
Sur RCF Finistère, avec Jean-Michel Moisan, prêtre de notre diocèse, nous regardons l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia et nous nous arrêtons en particulier au chapitre 8, hein, avec notamment cette question, et vous l'avez évoqué avant cette interruption, de la question des divorcés remariés. Alors, pour bien comprendre, c'est intéressant de regarder ce que le pape lui-même dit dans ce chapitre 8, notamment au numéro 291, Jean-Michel.
Le paragraphe 291, je vais en lire juste quelques bribes. Voilà. Les pères synodaux ont affirmé que, même si l'Église comprend que toute rupture du lien matrimonial va à l'encontre de la volonté de Dieu, elle est également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils. Illuminée par le regard de Jésus-Christ, elle se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie, leur donnant le courage d'accomplir le bien, pour prendre soin l'un de l'autre avec amour et être au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent, etc. Et il va proposer qu'il y ait un accompagnement de ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé, et en leur redonnant confiance et espérance, etc. La perspective du pape est d'abord, fondamentalement, de plaider, je ne sais pas s'il faut plaider, enfin, mais au moins de valoriser le mariage comme engagement à vie et comme mariage sacramentel. Et loin du pape de vouloir baisser la garde sur ce point-là. Ça, il faut le dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les préparations au mariage, il va falloir dire, eh bien non, le mariage est à vie. Et si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, pourquoi vous mariez ? Si dans votre esprit, vous venez chercher un mariage à l'église et en vous disant, bon, c'est bien valorisé à l'église, c'est grand, c'est spirituel, et voilà. Et dans la préparation au mariage, on va leur dire, mais le mariage n'est pas que valorisé et que spirituel, il est aussi propre à ceux qui s'engagent dans la foi. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, eh bien, il y a d'autres formes qui pourraient être valorisées. Je trouve ça extrêmement important que, à côté de la proposition aux personnes divorcées remariées d'être réintégrées, qu'il y ait une pratique de mariage qui soit exigeante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont divorcées remariées, qui viennent vers l'Église étant divorcées remariées, viennent en disant. Mon premier mariage, j'ai eu l'impression de vivre comme un mariage humain. Bon, il y avait bien sûr Dieu là-dedans, mais je n'ai pas pris conscience que c'était un sacrement. C'est-à-dire que Dieu était là-dedans et qu'il m'unissait. Et ensuite, après le divorce, j'ai tout d'un coup redécouvert Dieu. Et avec ma nouvelle épouse ou mon nouveau compagnon, j'ai découvert Dieu et je me retrouve coincé. Et comment faire ? Dites-moi comment faire. Vais-je rester à vie, hors de toute possibilité de vivre la communion. Et donc ici, le pape François va écouter beaucoup les cardinaux qui disent il faut que l'on dépasse cette situation.
Et il va insister sur l'importance du discernement devant des situations dites irrégulières, notamment pour ces personnes divorcées remariées.
Cette situation de discernement est ce que l'on fait humainement le plus spontanément dans les familles, où on va dire, les parents vont dire, ma fille est divorce parce que son conjoint, son compagnon est parti avec une femme, ou l'inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une douleur énorme, d'une part, de la part de ces parents-là, et une douleur surtout de la part de cette fille-là. Ou de cet homme-là qui s'est senti plaqué, largué, entre guillemets, etc., et qui va dire « mais moi je n'y suis pour rien ». Où est ma propre culpabilité ? Où est ma responsabilité là-dedans ? On pourra toujours trouver une responsabilité en disant que, oui, dans un mariage, c'est 50-50, 50-50. Mais je ne suis pas très d'accord non plus avec cette possibilité-là. Il y a des gens qui ont pu essayer de sauver leur mariage, et pour une part, la fragilité de l'autre fait que ça, il part avec une autre compagne ou un autre compagnon. Et la partie, si vous voulez, qui est là, innocente, on va dire, ou du moins qui est délaissée, va dire, moi, dans mon cœur, je n'ai pas à me reprocher des choses. Aujourd'hui, je ne souhaite pas, je ne désire pas vivre toute seule, parce que quand on a 30 ans et que on est séparé, divorcé, avec le sérieux qu'il y a eu avant dans cet engagement, des personnes, beaucoup de personnes disent, eh bien, nous ne pouvons pas rester seuls. Et parce que notre solitude, elle est trop difficile à vivre. Et donc, comment les réintégrer? Et le pape François va proposer la chose suivante. C'est important que l'aide de l'Église soit donnée. L'aide de l'Église. Et l'aide de l'Église, ça consiste en quoi? Ça consiste dans le fait de qu'un prêtre puisse aider la personne à discerner ce qui est dans le cœur profond, c'est-à-dire l'authenticité ou la responsabilité par rapport à la rupture précédente. Et là, je trouve que cette proposition est extrêmement importante, y compris dans notre univers social, qui est très lâche quand même par rapport à cette affaire de prendre un conjoint, le lâcher, etc. Et il n'y a pas beaucoup d'éthique qui est proposée, de fidélité. Et même de combat intérieur pour faire vivre son couple. Et là, il y a l'aide de l'Église qui est proposée pour que la personne puisse, comme dit le texte, alors avec des termes techniques au niveau juridique et au niveau de philosophie morale, discerner l'imputabilité. Alors, c'est des termes qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de...
Non, pas vraiment, pas tous les jours.
Ça veut dire qu'on va discerner la responsabilité des personnes. Si des personnes ont pu mal également vivre ou mal se comporter dans le premier couple, de pouvoir demander pardon et de pouvoir, voilà. Et de pouvoir aussi dire, et maintenant que vous avez redécouvert la foi, aussi votre sacrement premier, il est là, toujours, et il doit être attentif aux enfants, s'il y a des enfants du premier couple, voire aux conjoints du premier couple, et d'amener toute une perspective de pardon également. Pourquoi? Pour se libérer, et pour devenir libre, et pour être attentif aux enfants, entre autres. Et là, l'Église a intérêt à être extrêmement vigilant sur le fait, par exemple, de ne pas donner la possibilité de communier et de recevoir le sacrement de réconciliation à n'importe qui comme ça, parce que les gens de la communauté savent très bien ceci. Ils savent très bien qu'un tel va communier. Comment ça se fait qu'il communie alors que avec ses ouvriers, il est complètement dictatorial? Comment ça se fait qu'un autre communie alors qu'on sait qu'il a une maîtresse? Et les gens, dans une certaine pureté, ils ont raison de poser la question. Ça veut dire que la question de l'accès au sacrement de réconciliation doit être communautaire, doit être ecclésial. C'est pas uniquement la conscience qui dit, moi, je me sens en conscience et puis je le fais. Non, il doit être ecclésial. Et c'est ce que le pape François a proposé, qu'il soit ecclésial et qu'il soit un cheminement. Et je m'inquiète en faux entre devant des gens qui disent, voilà, alors maintenant vous allez permettre, il y a des prêtres qui vont permettre la possibilité de communier. Je leur dis, la question n'est pas la permission, c'est la question du cheminement de transformation qui vient à l'occasion du second couple, et où les personnes puissent, dans leur cœur le plus authentique, dire « Maintenant, j'estime que peut-être il y a eu du péché dans l'ancienne ou dans le divorce précédent. Maintenant, j'ai fait le travail de purification. Et voilà, et je me présente à l'Église. Va-t-elle me fermer les portes ?»
Donc, ce qui change par rapport à avant, on peut dire, c'est l'insistance sur un long cheminement pour ces personnes dans l'Église, accompagnées pour discerner, pour passer à autre chose.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le cheminement est fait à la fois pour guérir des blessures que le premier, que la divorce a pu faire. Et aujourd'hui, il y a des blessures quand même, hein, y compris dans la société, des choses qui ne se disent pas. Mais quand on entend des personnes qui disent « ils ne peuvent pas dire j'ai divorcé, mais je me suis séparé de mon conjoint. Et bon, on sait après que c'est le deuxième conjoint en 2 ans, 3 ans. Il y a des blessures cachées. Et comme c'est reçu dans la société, c'est plus problématique dans la société, on ne va plus interroger, on ne va plus aider les gens à vivre ça. Ça veut dire que c'est un processus d'abord de guérison des blessures. Ensuite, c'est un processus pour se réintégrer dans la foi. Parce que quelqu'un qui rencontre, après son divorce, une autre personne, il a un problème par rapport à sa foi. Il vit un problème par rapport à sa foi. Je suis là, devant Dieu, je suis en état de quoi ? De péché ? Pas de péché ? Avec ce second couple-là, et Dieu me rejette sur moi parce que j'ai failli par rapport à mon premier mariage. Et donc, la question va être de réintégrer les personnes dans la relation à Dieu. J'ai été confronté à ça parce que j'accompagne un groupe de divorcés remariés au centre spirituel de Cléguérec depuis 10 ans. Et j'ai eu des personnes qui ont voulu, après une séance, venir amener ces questions-là. Je leur dis, mais c'est important que vous retrouviez Dieu. Ou plutôt que Dieu ne vous a pas quitté, mais c'est vous qui aujourd'hui êtes troublé par rapport à ça. Et que vous quittiez tout trouble, toute culpabilité subjectivement, disons, enfonçante, si vous voulez, et que vous puissiez retrouver une authenticité de relation à Dieu qui vous aime et qui est là aussi dans votre fragilité. Et c'est tout ça qui est à faire. Et c'est tout ça aujourd'hui le chemin que des diocèses sont invités à faire. Il y a déjà plusieurs conférences épiscopales qui ont commenté à Maurice et Laetitia. Il y a la conférence épiscopale argentine, il y a la conférence épiscopale maltaise, il y en a une autre allemande aussi. Bon, j'ai peur que ce soit effectivement trop rapide, parce que c'est des affaires d'abord au sens du fort interne, c'est-à-dire que c'est des processus qui peuvent être longs à mettre en place, et des dialogues qui peuvent être longs à mettre en place, où il peut y avoir des difficultés, etc. C'est un cheminement, y compris au niveau des diocèses.
Ça veut dire, pour que ce cheminement puisse se faire, que des prêtres, des personnes puissent accompagner, par exemple, ces divorcés remariés ou ces divorcés, qu'il puisse y avoir un accueil dans l'Église pour que ce chemin se fasse petit à petit.
Voilà. C'est la fameuse note. Alors, il y a une note qui a mis le feu aux poudres, si vous voulez, par rapport à cette question-là. Alors, c'est la note 351 qui est une note en bas de page, à la page 237 du texte, qui est une note relative au paragraphe suivant. À cause de ces conditionnements ou de ces facteurs atténuants, c'est-à-dire des facteurs qui atténuent la responsabilité. Par exemple, est-ce que j'ai été lâché ou pas, ou si c'est de ma faute ou pas, voilà. Il est possible que dans une situation objective de péché, c'est-à-dire de rupture du lien matrimonial et la possibilité d'une vie à côté, d'une deuxième vie, qui n'est pas subjectivement imputable, ou qui ne l'est pas pleinement, alors c'est très délicat, cette écriture, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et de la charité, en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Je redis ça parce qu'il y a une théologie qui peut amener à dire les divorcés remariés sont en état de péché mortel, c'est-à-dire l'état de péché qui rompt la relation à Dieu. Le pape François, dans son exhortation, il souligne à un moment donné ceci: il est faux de dire que tous les divorcés remariés sont en état de péché mortel. Et il le souligne, ça, pour indiquer qu'il y a des circonstances atténuantes qui peuvent amener ces séparations et qui, après, aussi peuvent amener une reprise d'une vie de couple. Et la note 351 que je lis: dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Voilà pourquoi, aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de la miséricorde du Seigneur. Je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Je suis aumônier d'hôpital et je pense au sacrement des malades. Et à cette occasion, il y a des gens, les cardinaux qui ont dit, parce que c'est pas su, que, en principe, les divorceurs mariés n'ont pas non plus droit à l'onction des malades. Et ce qui horrifie tout le monde, car la situation de malade est précisément une situation où on a besoin de nourriture spirituelle. Et nous, on est confrontés régulièrement comme aumônier d'hôpital à cette question. Et ça veut dire que cette note 351 a mis le feu aux poudres. Et il y a eu des réactions extrêmement violentes contre le texte ici du pape François. Et lui, le pape François, il n'a pas dit que l'accès au sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie et de l'onction des malades pouvait être donné comme ça, comme on ouvre une porte, si vous voulez. Il n'a pas voulu ouvrir une porte en grand, mais il a dit cela est de l'ordre d'un discernement intime avec un prêtre. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du découpage fin d'une situation. Et on est en train de, si vous voulez, c'est comme l'église là, serait une grande tapisserie et où on est en train de faire des petits points de crochet ou des petits points très subtils pour aider les gens à dépasser des situations en fragilité. On pourrait, certains disent, il faut que le témoignage de l'indissolubilité soit clair, soit clair et qu'il ne soit pas refroidi par cette possibilité-là et qu'il soit un message envoyé au monde. Et d'autre part, les autres qui souffrent de cela vont dire, eh bien, non. Et nous, alors, nous sommes des cas particuliers qui ne pouvons pas vivre en église. Alors, on va leur dire, mais si, vous pouvez communier spirituellement. C'est-à-dire qu'en venant à la communion, avec les bras sur le cœur, et en demandant une bénédiction. Je connais beaucoup de gens qui le font. Certains le font de manière nette, sans souffrance. D'autres le font avec beaucoup de souffrance, en disant il y a autant de grâce qui vient dans la communion spirituelle que dans la communion réelle, sacramentelle. Mais cette théologie-là tient-elle? En ce cas-là, pourquoi propose-t-on pas à tous les catholiques la communion spirituelle? Ah mais c'est important de communier sacramentellement. Bon, là on tourne en rond. C'est-à-dire que la question est aussi à la fois de tenir une proposition générale de l'Église comme proposition de se marier à vie et d'exercer une fidélité à vie, et de tenir compte aussi des cas singuliers. C'est ça l'objet du pasteur quand même, malgré tout.
Jean-Michel Moisan, merci beaucoup.